cours de philosophie premier par le père Philippe à Saint-Jean-d'Arc le 27 janvier 1988.
Nous avons vu la naissance de la qualité chez Platon, la naissance du mot, de l'expression. Comment chez Platon, ça restait d'une manière très descriptive, comme toujours. Chez Aristote, ces deux aspects extrêmes de la qualité, je crois auxquels il faut être très sensible. L'aspect logique, c'est-à-dire de l'attribution. On comprend très bien que l'attribution par excellence, c'est la qualité. Qualifie quelqu'un. On lui attribue telle ou telle forme, telle ou telle qualité. Et c'est vrai, je crois que ce que dit Aristote dans les catégories, il faut souvent y revenir, c'est pas commode à première vue, mais c'est très important. Et puis la vision d'Aristote en métaphysique et en éthique. On comprend aussi que l'éthique, c'est le lieu par excellence de la qualité. Sitôt après Aristote, chez les stoïciens, il n'y aura plus du tout la même vision. On va avoir uniquement une vision de la qualité qui sera beaucoup plus vue comme une tension. Ténos stoïcien représente la qualité. C'est curieux. Vous voyez, c'est un aspect beaucoup plus volontariste. Ce serait très intéressant, du reste, à bien comprendre ce que ça représente. Mais on n'a plus du tout cet aspect, j'allais dire, contemplatif de la qualité. Parce que c'est quand même cela qui met notre intelligence en état contemplatif. Et quand Aristote dit « Nous avons de la joie », il commence comme ça, sa philosophie première. « Nous avons de la joie de voir. Il nous est agréable de voir. » Et pour lui, c'est le signe qu'il y a une connaissance spéculative, donc une connaissance contemplative. Et je crois que c'est très vrai que c'est le développement point de vue de la connaissance, de ce que représente le point de vue qualitatif qui nous conduit à la contemplation. C'est une voie à la contemplation. La qualité repose le point de vue de l'intelligence et ouvre l'intelligence. La qualité, c'est quelque chose qu'on reçoit. On la regarde. Et c'est pour ça qu'immédiatement après Aristote, on voit que chez les stoïciens, la qualité prendra un caractère tout à fait différent. Vous voyez, regardez la qualité comme un effort, une intensité. On tombe du côté de l'efficacité. Là, il y a un tournant très intéressant à voir parce qu'on le retrouve constamment dans la pensée. Il faut regarder ensuite, je ne veux pas le faire, parce qu'il ne faut pas insister trop sur les topiques. Regardez la manière dont saint Thomas utilise le point de vue de la qualité. Il y avait une thèse qui avait été faite au seul choix du père Médieu sur la qualité chez saint Thomas. Je crois que cette thèse n'a jamais été éditée, alors elle a disparu. Elle doit encore exister à la bibliothèque du Solchoir à Paris, mais c'est pas commode de la voir. C'était très intéressant de voir comment, dans toute l'œuvre de saint Thomas, on pouvait dire que toute cette œuvre, au point de vue intellectuel, était ponctuée par la qualité. Et c'est peut-être le théologien qui a le plus le sens de la qualité. C'est assez intéressant à ce point de vue-là. C'est comme la crête. Il y a des gens qui ont le sens de la qualité, il y a des gens qui ont le sens de la quantité. On le sait bien. Les gens qui ont le sens de la quantité, on le verra, c'est fatigant. Tandis que les gens qui ont le sens de la qualité, c'est reposant. De façon générale, vous voyez? Ne distinguez pas les frères qualitatifs et les frères quantitatifs. Ne faites pas ce petit discernement, mais on le fait instinctivement. Il y a des gens qui ont un sens de la qualité. Et les artistes. Bien, je crois, si vous avez le temps de le faire une fois, lire toute l'œuvre de saint Thomas sous ce point de vue de la qualité. C'est ce que faisait cette thèse. Reprenez toutes les œuvres de saint Thomas sous le point de vue de la qualité. Bien, vous voyez combien saint Thomas est un théologien de la qualité. Et pour vous en donner le sens tout à fait particulier, c'est l'importance de l'habitus chez saint Thomas. L'habitus lexis. Très difficile, je vous l'ai déjà dit, à le traduire. Hein. C'est pour ça que j'aime mieux dire habitus. Pour ne pas défigurer la pensée de saint Thomas. Eh bien, de fait, quand vous regardez dans la théologie de saint Thomas, vous voyez la place extraordinaire de l'habitus. Toutes les vertus sont habitus, alors, pour la théologie morale. Les vertus théologales sont des habitus. Les dons du Saint-Esprit sont des habitus. Ça devient comme, j'allais dire, une grande arête. C'est tout le problème de la substance dans sa manifestation. Et donc, c'est vraiment cet aspect-là qui va nous permettre de comprendre ce que c'est que l'homme, un homme qualifié. C'est un homme qui a des habitudes. Un homme qui n'a pas d'habitus, c'est quelque chose qui lui manque. Vous voyez, la personnalité se traduira par les habitus. Si on essaie de comprendre le passage entre personne et personnalité, la personnalité, c'est la manifestation de la personne. Quand vous dites quelqu'un a une grande personnalité, c'est la manifestation, c'est par là où vous touchez ce que c'est que la personne. Eh bien, la personnalité se traduit toujours par des points de vue des habitus. Notre intelligence se perfectionne par l'acquisition d'habitus. L'art est un habitus. Alors c'est très difficile à bien préciser, mais chez saint Thomas, il y a toute une vraie théologie de l'habitus. Et donc une philosophie de l'habitus. Parce que pour saint Thomas, c'est vraiment une clé, ça. Vous voyez, c'est le sommet de l'acquisition. On acquiert les vertus, on acquiert l'art. Évidemment, les dons du Saint-Esprit nous sont donnés. Et les dons du Saint-Esprit qualifient le chrétien. Dans la mesure où, justement, il ne les étouffe pas. Il y a deux types de chrétiens, ceux qui vivent des dons du Saint-Esprit et ceux qui les ont mis au frigidaire. Il y a des quantités de chrétiens qui mettent les dons du Saint-Esprit au frigidaire. Ils s'en servent jamais, ils ne savent pas ce que c'est. Ils essaient, tant bien que mal, de faire leur devoir d'État. Vous voyez, ils sont stoïciens. Faire leur devoir d'État. Ils sont tranquilles. Ils ont fait leur devoir d'État. Ils ont payé le denier du culte. Pour eux, c'est le maximum. C'est vrai, c'est l'argent qu'ils ont donné, denier du culte, c'est très important. C'est vrai que c'est très important pour l'Église, c'est très important. Toujours encore, on me disait, cette paroisse, c'est la plus excellente. Je ne dis pas de quelle ville, parce que pour Perrier, c'est la plus excellente. Parce que, eh bien, c'est le quart du denier du culte de tout le diocèse. J'ai écouté, mais c'est toujours intéressant d'écouter ces choses-là, parce qu'on voit comment les gens regarde la qualité d'une paroisse. C'est la qualité de la quête. Venez, on est très loin de l'habitus. Mais c'est la voir quand même. C'est curieux. Hein? Ça, c'est stoïcien. C'est très important de voir les restes stoïciens dans la vie chrétienne. qui dure, hein, même maintenant, même après Vatican II, ça dure, ça reprend avec une force étonnante. Les bons chrétiens sont un peu stoïciens. Eh bien, c'est plus l'habitus. L'habitus qualifie un être. Et un chrétien est qualifié par les dons du Saint-Esprit. Or, les dons du Saint-Esprit ne s'exercent dans notre vie que si on le demande au Saint-Esprit. D'être mû par lui, d'être éduqué par lui. Alors, vous voyez la place que prennent les dons du Saint-Esprit, les habitudes en saint Thomas, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'habitus pour saint Thomas? Il y aura les habitus opératifs et les habitus entitatifs. Ça, c'est tout à fait propre à saint Thomas. Parce qu'Aristote n'en parle pas de ça. Alors, qu'est-ce que c'est que l'habitus? On dira le même mot, habitus entitatif et habitus opératif. Qu'est-ce que c'est que l'habitus? L'habitus, c'est une qualification qui se fait de l'intérieur, grâce à l'exercice. Un ouvrier qualifié acquiert un habitus. Un ouvrier non qualifié, c'est quelqu'un qui, justement, n'a pas de qualité dans son travail. Il exécute. C'est tout. L'exécutant est celui qui est ouvrier qualifié. L'ouvrier qualifié saura rectifier certaines choses qu'il verra qui ne seront pas exactement ce qu'il faut. Les défauts de la matière, par exemple. Eh bien, tout de suite, un ouvrier qualifié saura voir. Il y a un ouvrier qualifié, par exemple, pour la technique. Il sait tout de suite voir ce qu'il faut mettre. Puis il a dans sa poche un petit micro. Alors ça fait l'ouvrier qualifié. Parce que ça, c'est... Il sait tout de suite voir immédiatement comment. Tandis que l'autre est mesuré par les défauts de la matière, ça l'arrête. Donc l'habitus, c'est un pli, une détermination qui nous permet, j'allais dire, d'utiliser nos puissances, nos facultés au maximum. L'habitus, c'est toujours ce qui nous fait tendre vers le maximum. Les dons du Saint-Esprit permettent l'exercice de la charité au maximum, la ferveur. Sans les dons du Saint-Esprit, il n'y a pas de ferveur. On a un chrétien de devoir. Tandis que par les dons du Saint-Esprit, il y a une ferveur. C'est ça le propre des habitus. C'est mettre le maximum. Le maximum, c'est l'aspect qualitatif. Quelqu'un qui n'a pas le sens du maximétalé, cette expression de saint Thomas, qui est très belle, qui n'a pas le sens du maximétalé, n'a pas le sens de la qualité. On va le plus loin qu'on peut. Si on ne va pas le plus loin qu'on peut, on reste, vous voyez, dans un domaine ordinaire, sans vouloir toujours conquérir le plus. La qualité implique le plus et le moins. Alors on comprend très bien, si ça implique le plus et le moins, si vous restez entre les deux, votre qualité n'émergera pas. Eh bien l'habitus, c'est ce qui va de l'intérieur, je dis bien de l'intérieur, vous voyez, c'est toute la différence avec la méthode. Il y a des gens méthodiques dans leur travail. Il y a des gens qui dépassent la méthode. Parce qu'ils ont une orientation intérieure. C'est de l'intérieur que ça vient. C'est-à-dire que la méthode, c'est toujours de l'extérieur. La méthode conduit à la série. La méthode est une chose fatigante. On applique, c'est tout. C'est très bien. Hein, c'est quelqu'un qui est méthodique, c'est parfait. On n'a rien à lui reprocher. Toujours à l'heure, exactement, exactement, avec tout ce qu'il faut. Pour travailler, il travaille bien. Mais oui, il travaille bien, sans qualité. La méthode. C'est important de comparer méthode et habitus. Ça, c'est une chose importante pour faire comprendre ce que c'est que la qualité. La méthode n'est pas une qualité. Tandis que l'habitus, c'est de l'intérieur ce qui vient perfectionner nos diverses puissances, notre intelligence, notre volonté, nos puissances de nos affectivités passionnelles, la concupiscence et l'irascible, pour permettre à ces puissances d'aller jusqu'au bout de leur virtualité, jusqu'au bout de leur capacité. C'est permettre cela, c'est ça l'habitus. Il faut le saisir, ça. Parce que je crois que si on ne saisit pas l'habitus, il y a des tas de choses de saint Thomas qu'on ne comprend pas du tout. Alors on a cette diversité des habitus dans nos puissances, et puis il y a l'habitus entitatif, qui pour saint Thomas, c'est la grâce et la beauté. La grâce dans l'ordre surnaturel et la beauté dans l'ordre naturel. C'est curieux, c'est les deux habitus entitatifs. La beauté est un habitus pour saint Thomas. Et la grâce est un habitus entitatif, la grâce sanctifiante. C'est-à-dire quelque chose qui est reçu, une qualité. La grâce est une qualité, qualité divine. Une qualité qui nous rend agréable. Et comme la beauté rend agréable. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que... Le beau, c'est ce qui est agréable à voir. Et c'est vrai, une chose belle est agréable à voir. On se repose dans quelque chose qui est beau. Tandis que quelque chose qui n'est pas beau, on passe vite. Vous voyez comme quoi la qualité, c'est le lieu du repos pour la connaissance. C'est très, très curieux. Ça. Il y a tout un aspect qui permet de voir comment la qualité intériorise et permet le lieu du repos. Donc, dans saint Thomas, c'est ce qui serait à voir dans saint Thomas. Si on veut comprendre un peu la théologie de saint Thomas, c'est de comprendre que cette théologie, c'est la théologie des habitus. C'est pas toute la théologie de saint Thomas, hein, mais l'habitus est un aspect sous lequel on peut saisir l'aspect qualitatif de saint Thomas. Alors, je n'insiste pas plus. Je voudrais voir avec vous tout de suite la dégradation de l'habitus, c'est-à-dire l'aspect stoïcien, parce qu'au fond, c'est ça. Et on ira jusqu'à Hegel. Hein. Hegel, c'est celui qui dégrade le plus la qualité. Un hegelien ne voit plus la différence entre qualité et quantité. Or, quelqu'un qui ne voit plus la différence entre la qualité et la quantité, c'est vraiment un pauvre type. Je sais pas, moi. C'est vraiment beaucoup de vin ou un très bon vin. La piquette, c'est pas d'abondance. Elle a transposé ça au point de vue philosophique, vous voyez. Dans la philosophie hegelienne, il n'y a plus de distinction entre qualité et quantité. C'est sûrement un aspect sous lequel nous voyons le mieux comment la pensée hegelienne est une dégradation de la philosophie. Si on comprend que la qualité, c'est justement la manifestation de la substance dans l'ordre sensible, et que la qualité se distingue de la quantité dans le sens que la qualité conduit à la contemplation, alors que la quantité conduit à l'agitation, on le verra, ça. C'est très important de comprendre les deux. Si vous confondez les deux, il n'y a plus de contemplation. Et l'agitation l'emportera. Ce qui, pour moi, est la chose la plus terrible dans la philosophie hegelienne, c'est la destruction de la contemplation. Exactement comme chez les stoïciens. Chez les stoïciens, il n'y a plus de contemplation. Il n'y a plus que l'action politique. Alors, baptiser l'action politique, vous voyez bien ce que ça fait. Et on voit très bien comment il n'y a plus de contemplation. Alors, je crois, hein, je dis ça, c'est parce que la qualité pour nous est quand même quelque chose de sensible, c'est plus facile à saisir que la substance. Mais c'est toujours par la qualité que vous saisissez la substance, et c'est toujours la qualité qui manifeste la substance. Alors, je regarde après les théologiens, il faudrait regarder la manière dont Suarez comprend le point de vue de la qualité. Et puis nous voyons tout de suite Descartes. Parce qu'il y a un passage entre Suarez et Descartes, il ne faut pas l'oublier. Les professeurs de Descartes étaient suarésiens. Alors je crois qu'on peut dire que chez Descartes, on assiste à la réduction des qualités au mode de la substance. Si Descartes emploie parfois le mot « qualité » en un sens qui rejoint le sens qu'a le mot « poionti » dans les catégories d'Aristote, par exemple, lorsqu'il distingue les propriétés ou qualités de l'esprit des propriétés ou des qualités des corps. Il réserve d'une façon plus précise le terme de qualité aux qualités sensibles, à ce que l'école, c'est-à-dire Suarez, appelait sensible propre et sensible commun. Alors c'est là où on voit la dégradation. Or, ce que l'on appelait sensible propre, pour lui, n'existe pas réellement, mais se réduit au sensible commun. Vous voyez, j'insiste parce que je crois ça capital. Je crois que c'est là le grand tournant. Alors, je vais vous rappeler ce que c'est que les qualités sensibles propres et qualités sensibles communes. C'est très simple, je vous l'ai déjà dit, mais il faut le rappeler plusieurs fois avant que ça rentre vraiment, et que ça devienne quelque chose pour vous, mais de saisie comme une chose absolument profonde. Les sensibles propres et les sensibles communs sont des qualités. Des qualités sensibles. C'est même les qualités que vous saisissez en premier lieu. Alors, sensible propre, c'est-à-dire ce que chaque sens saisit d'une manière caractéristique. Ça, c'est facile à comprendre. La vision saisit la lumière. Pouvez-vous saisir la lumière par votre main, en touchant? Pas très commode. C'est vrai, c'est pas très commode de saisir la lumière par en touchant. Cette table est lumineuse parce qu'elle est froide. Là, si vous dites ça, vous dites, mais complètement, ça va plus. Il y a la lumière et puis le chaud, justement, ou le froid. Qu'est-ce qui caractérise le toucher? C'est le chaud et le froid. Ou le tiède, si vous aimez mieux. Ça dépend pour certains. Ils sont bien que dans le tiède. D'autres, ils sont bien que dans le chaud. Et d'autres, ils sont bien que dans le froid. Vous voyez, le froid conserve. Hein? Alors, les conservateurs, ils aiment le frigidaire. Même pour les concepts. Alors, il y a le chaud et le froid. Puis, il y a l'intermédiaire. Bon, lumière. Puis, pour chacun des sens. Le goût. Piment. Il y a des gens qui aiment ça. Le piment turc. C'est le piment le plus extraordinaire que j'ai goûté. Alors c'est pour ça que je le dis, c'est Maxime Étalé. À Istanbul. Effrayant. Ça vous reste encore. Oui. Il y a des choses comme ça qui, dans le goût, restent. Ça reste fixé. On ne peut pas aller plus loin. Jamais été plus loin. Alors, vous voyez, la qualité pointe quelque chose qui va très loin. Non, le goût. Faites ça pour l'odorat. Vous avez senti certaines odeurs qui... insoutenables. Ça peut arriver, ça. Dans les pays chauds. Dans les pays froids, beaucoup moins. Ça, c'est la vieille idée. Les odeurs se propagent beaucoup plus dans la chaleur. Il y a des liens comme ça. Mais l'odeur est aussi quelque chose qui est très caractéristique. L'ouïe. Des sons très aigus. des sons graves. Bon, il y a des sensibles propres qui sont caractéristiques de chaque sens. Et puis les sensibles communs, c'est ce qui est saisi par plusieurs sens. Quels sont les sensibles communs? Les sensibles communs, c'est la grandeur. C'est le nombre. C'est le mouvement. Le repos. La figura. La grandeur, le nombre, le mouvement, le repos. Vous en avez cinq. Alors, c'est très curieux. Vous voyez que c'est sensible commun. C'est vrai, le mouvement, vous pouvez à la fois le toucher. Quand vous touchez une meule qui tourne très vite, vous savez très bien ce que c'est que le mouvement à ce moment-là. Ça vous rappe. Le mouvement, vous le voyez. Ça se voit. Le mouvement, vous l'entendez. Et le mouvement, vous le sentez. Et le mouvement, vous le goûtez. Vous savez, quand vous avez un gros bonbon dans la bouche, hein, vous le faites bouger. Hein, c'est curieux, mais c'est comme ça. Et vous goûtez le mouvement à ce moment-là. C'est assez curieux. Il y a le repos, là, juste l'opposé. Le nombre. Si vous avez trois granulés dans la bouche, vous savez qu'il y en a trois. Et vous les comptez, même si vous n'avez pas vu qu'il y en a bien trois. Venez. Et vous les touchez, évidemment, trois aussi. Et vous les voyez. Et vous pouvez les entendre. Il y a cinq cloches qui sonnent en haut. C'est un carillon de cinq cloches. Et vous arrivez à distinguer par l'ouïe le nombre. Alors, c'est très curieux. Et ça, c'est très, très important. C'est que cette distinction-là, elle est propre à Aristote. Elle est maintenue dans saint Thomas et elle disparaît avec Descartes. C'est pour ça que je dis que c'est la dégradation de la qualité. Voilà la chute cartésienne. Et depuis Descartes, les seuls qui la reprennent, c'est les marxistes. Ça, il faut le reconnaître. Je ne suis pas spécialisé dans le marxisme, mais à Fribourg, il y avait quelqu'un qui était très spécialisé dans le marxisme et qui recevait toute la littérature. Et un beau jour, il m'a dit ça, il m'a montré, ça m'a intéressé beaucoup. Je vais vous expliquer, c'est quand même intéressant, parce que bon, les vrais thomistes d'une philosophie réaliste ont toujours maintenu cette distinction, tous. Mais, quelquefois comme Suarez. Et Suarez maintient la distinction, mais la maintient d'une façon telle que Descartes la supprime. Et Descartes, disciple de Suarez, ça prouve que chez Suarez, il y a un petit quelque chose qui n'était plus vu. Alors vous voyez, ce qui est très important, c'est que c'est sensible, prof. Je vous ai dit, la qualité, elle est gardienne de la contemplation. La qualité, elle conduit à la contemplation. C'est la grandeur de la qualité. Et les sensibles propres, c'est ce qui conduit au jugement d'existence. Et c'est ce qui conduit à la contemplation. Si vous supprimez les sensibles propres, plus de jugement d'existence. Parce qu'il n'y a plus de contact direct avec la réalité. Et si vous supprimez les sensibles propres, il n'y a plus de contemplation. Du moins, vous ne pouvez plus justifier la contemplation. Vous ne pouvez plus la connaître, l'exposer, voir ce qu'elle est. C'est pour ça que c'est si important. Ça joue un rôle capital dans notre vie. Et c'est ce que les artistes mettent en pleine lumière. Alors il faudrait comprendre que quelquefois, dans l'art, il n'y a plus cette vision des sensibles propres et on retombe dans les sensibles communs. Les grands arts sont toujours la mise en lumière des sensibles communs. Et les arts mineurs, c'est la mise en lumière des sensibles communs. Donc les sensibles propres. C'est ce que chaque sens saisit immédiatement. La lumière, la chaleur, le goût. Vous voyez ? C'est ce que chaque sens saisit immédiatement. Les sensibles communs, c'est ce que chaque sens saisit. Mais saisit aussi, ça peut être saisi aussi par un autre. C'est comme le support des sensibles propres. Et ce qui caractérise les sensibles communs, c'est que les sensibles communs sont mesurables. Je peux mesurer la grandeur, le nombre, le mouvement, le repos et la figure. Les sensibles propres ne sont pas mesurables. C'est quelque chose que je saisis ou que je ne saisis pas. C'est sûr. Quelque chose que je saisis immédiatement ou au contraire qui m'échappe. Tandis que les sensibles communs sont mesurables. Et c'est ce qui fait dire, vous voyez, alors c'est là ce qu'il faut bien comprendre. Pour Descartes, les sensibles propres n'existent pas réellement. Ils sont subjectifs. Tandis que les sensibles communs sont les seuls mesurables et ce sont les seuls objectifs. Descartes subit l'influence de la physique qui commence, la physique moderne, qui regarde le mesurable et qui ne regarde pas les sensibles propres, puisque les sensibles propres sont indivisibles et par le fait même qu'ils sont indivisibles, ils échappent à la mesure. Et c'est pour ça que Descartes dit qu'ils sont subjectifs et qu'ils ne disent rien de la réalité. Et que la seule chose qui nous dit quelque chose de la réalité, c'est les sensibles communs. La preuve en est pour Descartes que tout ce que nous pouvons concevoir clairement et distinctement dans les choses corporelles se ramène à fort peu de choses. Vous voyez bien le raisonnement, hein ? C'est toujours le même critère. Tout ce que nous pouvons concevoir clairement et distinctement dans les choses corporelles se ramène à fort peu de choses, à savoir, et ça c'est de Descartes, la grandeur, ou bien l'extension en longueur, la largeur, la profondeur, la figure, qui est formé par les termes et les bornes exterminationnées de cette extension. La situation que les corps diversement figurés gardent entre eux et le mouvement ou le changement de cette situation auquel on peut ajouter la substance, la durée et le nombre. Voilà la seule chose que vous connaissez. Les qualités propres données par les sensibles propres, non, c'est subjectif. Quant aux autres qualités, couleur, son, elles se rencontrent dans notre pensée avec tant d'obscurité et de confusion que nous ignorons même si les idées que nous en concevons sont en effet les idées de quelque chose réel ou bien si elles ne représentent que des êtres chimériques qui ne peuvent exister. C'est subjectif. Et n'oubliez jamais ça. Le rouge du feu ou le vert du feu, c'est subjectif. Alors vous pouvez dire aux gendarmes, quand ils vous disent que vous avez passé au feu rouge, « Ah mais pardon, moi j'ai vu vert. » C'est subjectif. Je suis cartésien. Mais bon, là, c'est très intéressant de voir ça, parce que ça montre que la philosophie de Descartes est complètement coupée de la réalité. Et si vous dites, quand même, il y a des feux rouges et des feux verts, et vous ne doutez pas que cet objectif, du moins je présume, quelqu'un qui douterait que le feu vert, c'est pas objectif, et qu'il pourrait être rouge, mon voisin de Bois-Rouge. Alors je dirais, mais quoi, il y a quelque chose qui ne marche plus. Le contact avec le réel est coupé. Et vous n'avez plus que ce qui est relatif à la connaissance subjective. Oui, alors c'est très curieux, parce que dans la vie, quand je vous dis ça, hein, je vous dis ça que vous diriez aux gendarmes, que vous dites, vous êtes passé au feu rouge. Vous dites, ah pardon, pour moi c'était le feu vert. Et vous direz, mais vous êtes malade. Si vous insistez trop, ça ne va pas aller bien du tout. Donc dans la vie pratique, tout le monde reconnaît que les sensibles propres, c'est quand même quelque chose de très important. La signalisation, c'est quand même très important. Le bon ordre dans une ville, c'est dépendre de ça. Alors transposer, et voyez toutes les conséquences. Et comment Descartes est-il arrivé à ça? Parce que c'est quand même assez curieux. Avant Descartes, Galilée avait déjà nié la réalité des qualités sensibles, que l'on dira plus tard secondaires. Ah oui, alors là, c'est ça qui est. C'est comment la science moderne, qui a la place de respecter la métaphysique, met les mathématiques à la place. C'est une application. Bon. Expulser les sensibles propres. Au plan critique, c'est capital si on veut comprendre la différence entre la science et la philosophie. La philosophie est attentive aux sensibles propres parce que c'est le contact immédiat que j'ai avec la réalité. Oui, c'est en ce sens-là que l'art est plus proche de la philosophie que la science. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Dans un monde comme le nôtre, pour maintenir la philosophie réaliste, il faut constamment faire appel à l'art. Déjà, Aristote le sentait, mais dans notre monde d'aujourd'hui, qui est un monde de technique et de science, c'est l'art qui vient sauver la philosophie. J'ai dit l'art au sens grand, parce que quelquefois, vous avez des artistes qui deviennent uniquement des techniciens. Alors, quand ces artistes deviennent des techniciens, évidemment, ils ne peuvent plus être des protecteurs de la philosophie. Parce qu'eux-mêmes sont contaminés. Alors, n'oubliez jamais ça. Hein. Avant Descartes, Galilée avait déjà nié la réalité des qualités sensibles, que l'on dira plus tard secondaires. Exposant ce qu'il pense de la proposition « Le mouvement est cause de la chaleur », Galilée commence par suggérer qu'on se forme un concept assez éloigné de la vérité en croyant que la chaleur est un véritable accident, affection ou qualité qui réside réellement dans la matière par laquelle on se sent réchauffé. C'est dans le second livre de Saggiatore. Vous voyez, c'est très cru. Et les marxistes reviennent au sensible propre par la chaleur. C'est intéressant que c'est curieux, ça. Ils disent, on ne peut pas nier quand même que la chaleur est quelque chose d'objectif. Prenez un bain, que l'eau soit chaude et bouillante, vous n'allez pas dire, oh, c'est purement subjectif. Bien obligé de reconnaître qu'il y a une objectivité là-dedans. Il explique alors qu'en concevant une matière ou substance corporelle, on ressent immédiatement la nécessité de concevoir en même temps qu'elle est terminée ou figurée de telle ou telle figure, que par rapport à d'autres, elle est grande ou petite, qu'elle est dans tel ou tel lieu, dans tel ou tel temps, qu'elle se meut ou est au repos, qu'elle est une, peu ou beaucoup, ce sont là des conditions dont aucune imagination ne peut la séparer. Je souligne, ce sont là des conditions. La condition devient la détermination. mais qu'elles doivent être blanches ou rouges, amères ou douces, sonores ou muettes, d'odeur agréable ou désagréable, mon esprit n'éprouve aucune obligation de l'appréhender nécessairement accompagné de telles conditions. Bien plus, si les sens ne nous y aidaient pas, le raisonnement, le discours et l'imagination n'y arriveraient peut-être jamais. C'est pourquoi il pense que ces saveurs, odeurs, couleurs, ne sont, en ce qui concerne le sujet en lequel elles semblent résider, que de purs noms, et en réalité ne résident que dans le corps qui les sent. C'est purement subjectif. Mais je crois ça extrêmement important pour saisir notre monde moderne. C'est très curieux. Hein. Vous savez, Aristote dit que quand on est à la source, la moindre déviation à la source a d'immenses conséquences pour un fleuve. Bien, pour la connaissance, la critique de la connaissance, je vous ai dit le rôle capital de la qualité. Pour le rôle de la connaissance, c'est ce discernement, très simple, qui est capital. Il y a quand même deux grands fleuves. Hein. Les philosophes qui maintiennent les sensibles propres et les philosophes qui rejettent les sensibles propres. Sous l'influence des sciences. Les sciences, la physique, ça n'intéresse pas du tout. C'est mesurable. Et alors, petit à petit, vous voyez, et c'est ça qui est intéressant à voir, petit à petit, l'objectivité se ramènera à l'aspect mesurable. Et ce qui détermine nos sens, ce qui détermine notre intelligence, ce sera le mesurable. On identifiera les deux. Donc, ce que nous devons nous essayer, puisque nous sommes plongés dans cette culture, ce que nous devons essayer, c'est de redécouvrir comment, avant le mesurable, il y a une autre objectivité. L'objectivité du mesurable existe, c'est bien évident, il ne faut pas la supprimer. Les sciences existent. Et les sciences ne sont pas adéquates à la réalité. Les sciences nous donnent une connaissance abstraite. Ce n'est pas adéquat à la réalité. Alors quand vous l'appliquez à l'homme, vous voyez ce que ça fait. Et dans les sciences, il y a en dernier lieu, les petites sciences dernières, c'est les sciences humaines. Et les sciences humaines, en dernier lieu, c'est justement des sciences qui oublient les qualités propres. Il y a autre chose comme objectivité de la connaissance que le mesurable. Il y a les qualités propres, les sensibles propres. Oui, ça, je crois, très importante. Galilée s'explique au moyen de plusieurs exemples confirmant que pour exciter en nous les saveurs, les odeurs, les sons, rien d'autre n'est requis dans les corps extérieurs que la grandeur, la figure, les nombres, les mouvements lents ou rapides. Si l'on supprimait les oreilles, les langues et les nez, il resterait la figure. Elle serait assez modifiée, ça ne veut rien. Il resterait les figures, les nombres, les mouvements, mais il n'y aurait plus ni odeur, ni saveur, ni son, lesquels, hors de l'animal vivant, ne sont rien d'autre que des noms. Alors il continue, c'est très amusant, c'est très amusant de voir comment, psychologiquement, on supprime tout ce point de vue qualitatif. Les sensations de chatouillement que nous ressentons en certains endroits précis du corps, et non en tous, ne nous appartiennent-elles pas à nous-mêmes et non à la main ou à la plume qui les produit? C'est purement subjectif. Là, vous avez une réaction de chatouillement. Mais mon petit, ne t'inquiète pas, c'est subjectif. Imagine-toi autre chose, ça passera. Parce que c'est ça, subjectif. Ça veut dire que c'est imaginatif. Vous le créez imaginativement. C'est pas quelque chose d'objectif. On vous pique comme ça, hein, sur la plante des pieds. Vous réagissez. Mais c'est subjectif. Ne vous inquiétez pas.